Donc, je vous invite à ouvrir la parole dans Proverbes. Nous allons aller au dernier chapitre, le chapitre 31. Puis, on va commencer la lecture au verset 10. Donc, Proverbes 31, à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent.
Bien, pourquoi oser parler d'un tel sujet dans l'année 2012, la femme vertueuse? Je pense qu'il y a deux raisons qui m'ont conduit à ce passage ce matin. D'abord, voilà quelques semaines, on a fêté ensemble notre 40e anniversaire de mariage. Puis, voilà deux semaines, je suis allé à Vancouver pour une réunion familiale dans des circonstances un peu difficiles. On a loué un camping, on était dans la journée 140 personnes de ma famille. Moi, je viens d'une famille de 10 enfants, 200 morts. Mes frères et ont eu de nombreuses femmes et de nombreux enfants avec ces nombreuses femmes-là. J'ai littéralement des centaines de nièces et neveux de différentes espèces. Je dois vous dire que je suis revenu déprimé. Lorsque mes enfants étaient petits, j'ai évité de les amener à Vancouver parce que je ne voulais pas qu'ils connaissent trop ma famille. Puis je le dis avec beaucoup de sérieux. J'oublierai jamais quand mon fils avait 14 ans, puis j'ai surpris mes frères en train d'engager les services d'une prostituée pour lui introduire la sexualité. Ce genre de famille-là. Puis je me suis posé la question, mes frères qui sont tous rendus leur troisième, puis quatrième, puis dixième femme dans un cas, frères en prison continuellement, des frères pris avec le crystal meth, puis toutes sortes de drogues, puis le boisson, puis des difficultés sans nombre. Pourquoi que moi, je suis différent de mes frères? Puis je veux témoigner, c'est à cause de ma femme. Moi, je vais regarder les femmes de mes frères, là. Le Seigneur m'a béni. Et ma femme va te choquer si j'ai dit trop, mais c'est Roger Whittaker qui a écrit une belle chanson que je ne traduirai pas, puis je ne chanterai surtout pas. Mais moi, je ne serais rien si ce n'était pas de ma femme. Elle n'est pas beaucoup en avant. Vous ne le connaissez peut-être pas. Mais la force dans ma famille, ce n'est pas moi. La stabilité dans ma famille, ce n'est pas moi, c'est mon épouse. Dans le Proverbe 31, nous avons ce passage qui vient d'être bien lu. Il me semble que quand la parole de Dieu est lue bien, en public, on a moins besoin d'expliquer, n'est-ce pas? Merci beaucoup, David. Dans ce passage, je pense qu'on peut le diviser, comme j'ai fait dans mon esquisse ici. On va faire une introduction, puis après cela, on va regarder ce que la femme excellente et vertueuse. Elle est d'une grande valeur, elle est digne de confiance, elle est économe, elle est d'une grande aide. Et ensuite, on va se tirer des conclusions. Commençons par notre introduction. Alors, vous savez que nous sommes devant un poème avec 22 strophes, 22 versets. Et c'est un poème qui est acrostiche. Maintenant, nous, en français, les poèmes ont souvent le même son qui se répète à la fin du ligne. Je ne suis pas un poète, je ne vous écrirai pas des poèmes ce matin, mais c'est un peu comme ça, la poésie en français, en anglais aussi. Mais chez les Hébreux, la poésie était plutôt la répétition d'idées plutôt que la répétition de sons. Puis parmi les poèmes dans l'Ancien Testament, il y en a environ une douzaine dans les psaumes, le livre de Lamentation, et ici dans le Proverbe 31, où c'est un poème acrostiche. Ça veut dire qu'il y a 22 strophes dans ce poème, et par coïncidence, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Alors, la première ligne du strophe en hébreu commence avec la lettre Aleph. Et le deuxième strophe commence avec la lettre Bet. C'est comme si ça commençait en français A, B, C, D, E. Vous me suivez là? Alors, les 22 versets dans ce poème commencent chacune avec la prochaine lettre dans l'alphabet hébreu. Et la raison que c'est comme ça, je peux penser à deux. D'abord, que ce soit mémorable. À cette époque-là, les gens ne se promenaient pas avec des papiers beaucoup. Le papier était rare, très dispendieux. Ça a été sûrement écrit voilà 3000 ans. Et on utilisait beaucoup plus son cerveau, on faisait beaucoup plus de par cœur. Et sûrement, c'était un moyen de rendre ce poème important plus mémorable, plus facile de mémoriser. Et deuxièmement, sans doute que le fait que ça l'ait utilisé, l'alphabet au complet, est un signe de quelque chose qui est complet, qui est parfait. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question. Le chapitre 31 a été écrit par le roi Lemuel. C'est qui? C'est une de ces nombreuses questions que je vais poser au Seigneur au ciel. J'ai toujours soupçonné que ce soit un autre nom pour Salomon, mais je ne suis pas certain. On ne peut pas être dogmatique là-dessus. Puis est-ce que ce poème est écrit pour sa mère? Est-ce que ce poème est écrit pour son épouse? Si c'était Salomon, ça prendrait plus que 22 strophes, n'est-ce pas? Est-ce que c'était écrit pour ses filles? Ou est-ce que nous avons ici un peu une composition avec des préceptes généraux pour la femme idéale? Alors, on ne sait pas non plus, mais on sait que Dieu nous a laissé ça complètement inspiré. C'est la parole de Dieu. Il utilisait un homme quelconque pour l'écrire, mais c'est sa parole. Mettons, pourquoi ce passage ce matin? Bien, c'est certainement pour nos femmes et nos jeunes filles. J'ose, comme homme, vous donner un enseignement sur ce que la parole dit, sur ce que Dieu veut pour les femmes et pour les filles. Mais c'est pour nous tous. Il y a des aliments d'instruction de cette psaume qui sont applicables dans toutes nos vies. Puis, je pense que je voudrais aussi guider les jeunes hommes qui cherchent la femme de leur vie. La télévision, les films, notre culture nous enseignent que la femme idéale est sexy, porte le moins possible de vêtements. Il y a une image de ce que c'est une femme qui est malheureuse puis qui conduit notre société à la dissolution, ce qui me concerne. Et voici la parole de Dieu nous donne un portrait d'une femme selon Dieu. Un jeune homme, quelle sorte de femme vous cherchez? J'ai le privilège de célébrer des mariages à l'occasion. Puis c'est avec beaucoup d'intérêt que je regarde les jeunes garçons et les jeunes femmes qui se flirtent, puis qui se parlent, puis se regardent, puis sortent ensemble et tout cela. Puis des fois, je me pose la question, quelle sorte de fille que ces gars-là cherchent? Hein? Puis, je ne suis pas sûr qu'on cherche la bonne chose, des fois. Introduction. Je ne voudrais pas qu'on soit découragé aujourd'hui. Je lis ce que la parole de Dieu dit sur les hommes, puis je viens décourager, puis des fois j'ai envie de lancer la serviette, puis dire, bon, je ne suis pas capable. Puis on lit ici, puis c'est quand même, c'est toute une femme ça. Je ne sais pas si ça existe quelque part, à l'exception de ma femme à moi, mais les autres, je ne suis pas sûr que c'est là. Puis on peut lire ça pour être découragé, puis ce n'est pas notre but. Personne n'est pas encore venu, n'est parvenu encore à la perfection. Notre travail, c'est de tendre vers l'excellence dans nos vies, de grandir, pas se décourager par les descriptions de la parole de Dieu de l'excellence. Et ce passage, par exemple, ne présente pas des options. Parce que l'autre chose qu'on peut dire, c'est que c'est écrit par je ne sais pas qui, voilà 3000 ans, puis ce n'est pas pour aujourd'hui, puis moi, là, c'est pas moi ça. Je ne me retrouve pas là-dedans. Excusez-moi, là. C'est Dieu qui dit ça. Ce n'est pas des options. Vous allez obéir à Dieu, vous n'allez pas obéir à Dieu, mais ne faites pas semblable. Semblable. Et ce passage enseigne clairement ce que Dieu désire que les femmes soient. On pourrait regarder la structure parallèle entre les versets 10 et 12 et les versets 28 et 31. On pourrait passer des semaines sur ce passage. J'ai écouté dernièrement une série de messages par une enseignante américaine qui a passé 9 semaines de 50 minutes sur ce passage. Très riche enseignement, j'ai beaucoup appris. J'ai un livre là, au bord de la rue par Bruce Waltke qui contient, je pense, presque 180 pages sur ces 22 versets. Ils sont riches. Voici comment je comprends la structure de cette cantique, de cette chanson. Entre les versets 10 et 12, au début, puis les versets 28 à 31, à la fin, il y a un parallèle de pensée et même de mots. Par exemple, au verset 10, on parle d'une femme. Au verset 29, on parle des filles. Au verset 10, on parle de vertueuse. Et verset 29, ce mot revient encore, vertueuse. C'est traduit par différents mots dans certaines traductions. Dans l'original, c'est le même mot. Au verset 10, on dit que sa valeur dépasse même la valeur des perles, qui était d'une grande valeur à cette époque-là. Et au verset 29, ça nous dit que sa valeur surpasse. Et au verset 11, on dit que son mari peut lui faire confiance. Et au verset 30, on dit que son mari peut le louer, deux mots semblables dans l'hébreu. Donc, il y a une structure parallèle entre 10 et 12 au début, puis les versets de fin, 28 à 31. Ce qui indique pour moi, je crois que, comment je dirais ça? Si on regarde le prochain cliché, je l'ai dit comme ceci, versets 10 et 12, c'est l'introduction. Versets 13 à 27, c'est la présentation, puis versets 28 et 31, c'est les conclusions. Et dans le verset 10 et 12, l'écrivain introduit 5 grands principes qui décrit la femme vertueuse, la femme excellente. Il développe ces pensées-là dans les versets 13 à 27, et il revient sur ces pensées pour mettre le clou, planter le clou au fond, comme Bill me dit souvent, dans les versets 28 à 31. Alors ce matin, nous aurons le temps de regarder l'introduction, versets 10 à 12, et on va sortir 5 grands principes, et on va les illustrer par les vérités, l'enseignement dans 13 à 27. Nous sommes rendus donc à ce premier point, elle est vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est très intéressant et même surprenant, je crois. J'ai été surpris à apprendre ça il y a quelque temps, que le mot « vertueuse » ici est utilisé partout dans l'Ancien Testament et traduit par « des vaillants hommes » ou « des hommes remplis de valeur ». Gardez votre doigt dans Proverbes, puis j'aime bien les PowerPoints, mais des fois, ça ne nous rend pas reçus. Alors, tournez dans votre Bible, ça vous fait pratiquer un peu. On va tourner dans 2 Samuel, s'il vous plaît. Puis on va voir le sens de ce mot-là, Dans 2 Samuel, chapitre 23, au verset 8, vous connaissez peut-être ce chapitre où, à la mort de David, c'est ses dernières paroles, on rappelle le nom puis les grands services des vaillants hommes qui étaient à son service, qui ont tué des géants, puis ont tué des lions, puis l'ont défendu. C'était son garde-corps, en effet. Puis au verset 28 de 2 Samuel 23, verset 8, 2 Samuel 23, 8, nous lisons, « Voici les noms des vaillants hommes. Puis ce mot « vaillante », c'est le même mot qui est traduit « vertueuse ». J'ai quand même fait des recherches, puis le mot « vertu », à l'origine, si on recule au 2e, 13e, 14e siècle, en français comme en anglais aussi, avait l'expression de vaillante. Une personne qui avait beaucoup de vertu était courageuse. C'est ça que ça voulait dire. Puis regarde ces vaillants hommes-là, verset 9, après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils de Akoshi, il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins. Puis, au verset 13, trois des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne de Dadoulam. Puis, verset 20, le même mot qui revient, Benaja, fils de Jehojada, fils d'un homme de Kabetzil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les deux lions de Moab, qui étaient certainement, est-ce que c'était des vrais lions ou est-ce que c'était des guerriers? Il est descendu dans une citerne pour frapper un lion au jour de neige, et glissant dans une citerne, dans une place étroite, n'est-ce pas? Attaché à un lion avec une épée, mais il faut être courageux, n'est-ce pas? Alors voilà comment ce mot-là est utilisé, puis ça nous donne un peu de sens. L'idée, c'est une idée de courage, de force intérieure. Puis on la voit dans ce passage. Regarde le verset 17 du Proverbe 31, si on revient à Proverbe 31. Elle est saine de force. Elle saine de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Au verset 21, elle ne craint pas la neige. Elle n'a pas de crainte. C'est une femme courageuse. C'est une héroïne. Puis je pense que la reine Esther, puis en passant, on dit d'elle que c'était une femme, la même expression est utilisée, une femme de valeur. Esther, qui un jour, quand son peuple a été en danger avec Haman, puis le roi des Perses qui voulait détruire son peuple, elle était la reine. Dans leur culture, la personne qui entrait dans la présence de Dieu, dans la présence du roi sans être appelée, pouvait être tuée immédiatement si le roi n'étendait pas son sceptre pour l'accueillir. Puis elle prie, puis elle rencontre son oncle, et pour sauver son peuple, elle risque sa vie, elle prend son courage entre ses deux mains, puis elle va vers le roi pour plaider pour son peuple. Quel courage! Voici la femme vertueuse, une héroïne comme la reine Esther. Pas des petites femmes molettes, là. Hein? Courageuse. Deuxièmement, on nous dit que c'est une grande valeur. Puis j'aimerais vous dire qu'entre les versets 10 et 11, il y a une connective, une car dans l'original. La Bible seconde, c'est une de mes Bibles préférées, une de ses faiblesses, c'est que pour que le français coule bien, le traducteur avait tendance à supprimer les lettres, les mots comme « et ». Et car. Et bon, ça coule bien, ça se lit bien, mais ça cache peut-être le fait qu'il y a un lien entre le verset 10 et le verset 11. Et sur notre deuxième point, qu'elle est d'une grande valeur, ça explique un peu son premier point. Vous le comprenez, là? Le deuxième point est un peu une explication du premier point. C'est un peu la raison qu'elle est comme ça. D'une grande valeur. Maintenant, ça nous dit qu'elle a plus de valeur que les perles. Et cela nous amène à le concept de la dot, qui est tellement étrange pour nous. Lorsque j'étais au Congo, j'ai rencontré, c'est tout un grand problème dans le Congo, même dans les grandes églises évangéliques, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'églises évangéliques au Congo. Puis un des grands problèmes, c'est ce problème du dot. Parce qu'un gars qui veut se marier avec une fille, puis s'entendre amour, mais il faut qu'il paye le prix. Quand je suis allé dans un village dans l'est du Congo, puis vraiment dans la jungle, il faut le voir, c'est vraiment dans la jungle, il y avait plein de chèvres autour. Il y avait 10 fois plus de chèvres que de personnes. Puis moi, j'étais bien niaiseux, puis tu comprends bien, puis ces gens-là, ils parlent leur langue de tribu, il y a 450 langues au Congo environ, il y a 5 langues d'échange que les gens parlent en commun, dont une, c'est le Swahili, dans l'est du Congo, où ce que j'étais. Le Swahili, je reconnais quelques mots, là, mais je ne le parle pas. Puis là, ils parlent français aussi, comme 3e, 4e ou 5e langue. Ils n'ont pas beaucoup d'éducation, mais ils ont beaucoup de capacité verbale. Puis là, j'essaie de leur poser une question. « Oh, mais vous buvez le lait des chèvres. » Ils ont dit de moi, « On ne boit pas du lait, surtout pas le lait des chèvres. » On boit le lait du mama. Bon, c'est ce qu'ils m'ont dit. Oh, mais vous mangez le ventre des chèvres. Jamais. Jamais. Mais à quoi ça sert, ces chèvres-là? Mais vous savez à quoi ça sert? Ça sert à acheter des filles pour nos fils. C'est ça, ça sert. Puis à un moment donné, j'ai commencé à poser, ça sert pour acheter la femme de notre fils. Puis j'ai demandé, il y avait quelques sœurs dans le cours, puis j'ai commencé à poser des questions. J'ai demandé à une sœur combien de chèvres qu'elle avait coûté. Puis une sœur qui m'a dit, « Moi, mon mari a payé 150 chèvres pour moi. » Et pour elle, c'était un point d'honneur que son mari avait tellement d'estime pour elle qu'elle a payé 150 chèvres. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le père, il vend ses filles pour des chèvres, puis il garde des chèvres, puis là, il les donne à son fils pour qu'eux, en retour, ils achètent une femme. C'est un système compliqué. Malheureusement, c'est devenu un peu lourd, puis je n'ai pas le temps d'en parler, là, mais des fois, les gars doivent attendre 20 ans pour ramasser de l'argent pour acheter leur femme. Parce que c'est les matantes, les sœurs, du père souvent qui contrôle ça. Puis j'ai assisté à une affaire de dot là, puis si tu voyais ça, c'est 2 jours où on négocie le prix, pas un cadeau. Mais quand on dit qu'elle a plus de valeur que les perles, ça avait tout un sens culturellement. Quelqu'un avait payé cher cette femme-là parce qu'elle était d'une grande valeur. Puis j'aimerais ça qu'on pense à comment ces bijoux sont créés. Vous savez qu'une perle, ça ne se fait pas dans une journée. Hein? Vous savez comment ça se fait? Il y a une huître, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit, huître? Puis un morceau de sable qui rentre dans l'huître. Puis là, l'huître, pour se protéger, parce que ça dérange, ça coupe, ça agace, fait des sécrétions d'une sorte de lait. Puis ça couche, ça fait une couche autour du morceau de sable pour que ça devienne rond, puis ça continue, puis ça devient de plus en plus gros. Donc, une perle, c'est un long processus pour former une perle qui commence avec une blessure, puis une irritation. Puis si on pense aux diamants, puis aux bijoux, vous avez déjà vu un diamant brut? C'est pas beau, ça. C'est vraiment pas beau. Il faut que ce soit taillé, puis travaillé, puis en Hollande particulièrement, puis on commence au nord du Canada à développer ce marché-là, puis on envoie des personnes en Hollande pour être formées pour tailler des diamants, puis ça prend très longtemps, des années pour devenir un tailleur de diamants expérimenté, puis on les coupe exactement avec des facettes pour que ça reflète la lumière, je pense que vous le savez ça. Puis cette femme-là, qui est a plus de valeur que les perles, elle n'est pas née comme ça. Elle a été façonnée. Elle a été travaillée. Ça a peut-être fait mal. Il y a eu des douleurs, des irritations, des circonstances difficiles dans la vie. Elle est devenue une perle de grand prix. Elle est devenue d'une grande valeur. Puis j'aimerais vous poser la question, ma sœur, vous êtes peut-être un diamant brut. Vous n'êtes peut-être pas taillé encore à l'image de à ce que Dieu voudrait que tu sois. Tu es en devenir. Mais je veux vous encourager parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Et même si le péché a un peu abîmé cette image-là, nous sommes à l'image de Dieu et Dieu est en train de nous faire sonner. Alors, ne découragez-vous pas. Dieu est en train de travailler dans ta vie et peut-être que les circonstances difficiles que tu vis, c'est la main de Dieu qui utilise ces circonstances-là pour vous façonner. Puis j'aimerais vous dire que dans le livre des Proverbes, ça nous dit clairement qu'une telle femme, monsieur, une telle femme, jeune homme, une telle femme, homme marié, est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Puis, je pose des questions. Madame, est-ce que vous êtes prêt à accepter le travail que Dieu fait dans votre vie pour vous tailler? Je n'aime pas ça concevoir mal. Je n'aime pas ça les circonstances difficiles. Je suis un justicier. Je suis capable de chialer quand ça ne fait pas mon affaire. Je suis capable d'être révolté puis me défendre. Puis, quand quelque chose arrive dans ma vie que je n'aime pas, je suis capable de dire, pourquoi tu permets ça, Seigneur? Ah, Seigneur, si tu m'aimes vraiment. Capable de m'éloigner du Seigneur un peu dans mes pensées quand ces choses-là arrivent. Puis, à un moment donné, il faut que je me donne un bon coup de pied dans le derrière, puis me faire ça, moi, j'ai déjà été capable, mais je suis moins capable aujourd'hui. Mais je le fais de façon figurative. Puis dire, Seigneur, tu permets ça. Tu es souverain, tu m'aimes parfaitement. Cette circonstance-là, difficile, que je déteste de tout mon cœur, tu l'as permis pour me façonner, puis Seigneur, je l'embrasse, cette difficulté-là, je l'embrasse, puis je te permets de travailler dans mon cœur et dans ma vie. Puis madame, est-ce que vous êtes prêt à avoir cette attitude-là? Dieu veut vous tailler comme un diamant brut pour faire de toi une personne d'une valeur qui est plus grande que n'importe quel bijou. Il faut lui laisser faire son travail. Et monsieur, est-ce que votre femme et votre mère et vos filles savent que vous les appréciez à leur juste valeur? Je vais le dire souvent aujourd'hui, les gars, écoute-moi bien là. Je parle aux gars là. Il y a toutes sortes de voix, toutes sortes d'influences dans notre monde pour vos femmes, pour vos mères, pour vos enfants, vos jeunes filles. Et si vous ne leur valorisez pas, ce n'est pas ce monde qui va les valoriser. Ce n'est pas ce monde qui va dire à votre fille, tu es une personne de valeur à cause de ça. Le monde va plutôt dire, tu es une personne de valeur parce que tu as des belles cuisses, puis tu les exposes à tout le monde, puis tu t'es décolleté, puis là, tu es une personne de valeur. J'étais à un mariage hier. On va dans un jeune homme, j'ai travaillé avec un fermier, puis on allait dans des ventes pour acheter des vaches, puis on a examiné la chair des vaches. Puis hier, les gars ont examiné la chair de toutes les femmes qui étaient au mariage. Excusez-moi, c'était pas drôle. Mais c'est ça la valeur de ce monde. Et si vous, monsieur, vous ne dites pas à votre femme, à vos enfants, aux filles, que vous êtes une personne de grande valeur à cause de telle chose dans votre cœur, à cause de telle façon de vivre, de telle valeur que vous avez, plutôt de qu'est-ce que vous êtes physiquement ou parce que vous êtes flirt ou je ne sais pas quoi, personne ne va le dire si vous ne le dites pas. Jeune homme, est-ce que vous cherchez une femme comme ça, avec l'aide de Dieu, en priant, Seigneur, donne-moi une femme comme ça, ou vous cherchez la femme la plus sexée que vous pouvez trouver? Troisièmement, digne de confiance. Mais encore une fois, c'est très surprenant ici, très surprenant. Parce que dans toute la parole de Dieu, 2000 pages quelques environ, il n'y a que deux endroits où on nous dit de faire confiance à un autre être humain. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Placez votre confiance en Dieu, pas dans les hommes, n'est-ce pas? Ça, c'est le thème de la parole de Dieu. Dans Juges, chapitre 26, je crois, il y a toute une histoire où est-ce qu'on met confiance en quelqu'un. Puis, ce n'est pas le même contexte, pas à tout. Puis le seul autre endroit, puis l'endroit qui est clair, où est-ce qu'on dit qu'un être humain peut mettre sa confiance dans un autre être humain, c'est ici, c'est qu'un homme qui peut mettre sa confiance dans sa femme qui est vertueuse. Wow! C'est toute une affaire. Madame, est-ce que ton mari peut te faire confiance? Jeune fille qui est un peu en relation avec un jeune homme, est-ce qu'il peut te faire confiance? Question d'argent. Je suis un peu fatigué depuis 44, 30 maintenant dans l'Assemblée, je pense. Je fais un peu de travail pastoral de temps en temps. Combien de couples que je vois où il y a des cachettes avec l'argent? Puis il y a des hommes qui font ça aussi, mais ce matin, on parle aux femmes. Êtes-vous intègre avec l'argent dans votre couple? Flirt. Moi, je vais ouvrir mon cœur ce matin. Je vais être sur les marches en arrière devant l'église tantôt, si vous voulez me lapider, madame. C'est une de mes grands fardeaux de ce temps-là. C'est les Facebook puis les sites Internet social. Un article dans le magazine Time aux États-Unis, il y a quelques mois, nous a dit que 40% des divorces aux États-Unis, il y a une question de relation avec une autre personne à travers un site Internet. 40% des divorces aux États-Unis. Ça ne fait pas longtemps que dans ces sites Internet-là, ça devienne populaire. Je pense que tout le monde dans la ville de Trois-Rivières a un Facebook, excepté moi. Ce n'est pas mauvais. Écoute, je reçois par jour quelque part entre 100 et 300 emails, jour et nuit. On a des traducteurs qui traduisent, des personnes qui font la traduction pour nous en Afrique, puis en Europe. Puis j'ai des correspondants au Singapour, où c'est 12 heures de différence avec nous autres. Alors, j'utilise l'ordinateur, j'en ai pas peur. Mais c'est un peu drôle, ça, là. Écoute, je vais vous mettre en cœur, puis je vais vous dire ce que je crains. Il y a un certain nombre de femmes qui sont expressives, puis ont des besoins émotionnels, puis sont parfois mariées avec un gars qui est un peu un bloc de glace. Ça existe des gars comme ça. Mais ces femmes-là, là, ils embarquent sur une discussion Internet avec un gars qui est différent de leur mari, puis c'est dangereux. Puis à un moment donné, ça dépasse les barrières. Vous me comprenez? Attention. Est-ce que le cœur de votre mari, est protégé avec toi? Ou est-ce que tu es une femme qui flirte avec les autres? Confidence. Comme une fois, j'ai vu des couples détruits par une trahison de confidence. Puis, monsieur, est-ce que vous faites confiance à votre épouse? Un jour, Dieu a dit, si Abraham avait un problème avec Ishmaël, puis Agar, puis Dieu a dit à Abraham, écoute donc ta femme, elle a raison. C'est à peu près ça qu'il lui a dit. Puis, monsieur, êtes-vous capable d'écouter votre épouse? Elle n'a peut-être pas toujours raison, mais parfois elle a raison. Puis, comme homme, puis je suis le premier comme ça, par orgueil, nous avons parfois de la difficulté à écouter nos épouses. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toujours raison, mais ça veut dire que parfois elles ont raison. Économe. Dans le verset 13, on a un peu une exposition de cela, dans les versets 13, 14 et 15. Dans le verset 13, elle est travaillante. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Ça ne dit rien, cela. Là. Mais dans ce temps-là, là, comprenons la culture. On n'allait pas chez Walmart, puis Croto, ou aux boutiques là, pour acheter des chemises et des pantalons. Madame, elle allait chercher un peu de laine qui avait poussé sur le dos d'un mouton, qui était pleine de branches, puis de toutes sortes de choses, de rances, et qui était sale, puis acheter de laine, puis il fallait le laver, puis enlever les débris, puis après ça, le tisser, en faire une file avec, puis après ça, faire des vêtements avec. C'était plus de travail que d'aller chez Walmart ou je ne sais pas où. Beaucoup de travail. Même chose pour le lin. La laine, c'est une plante qui pousse, puis il faut prendre un crochet de fer, puis le tirer, puis le laver, puis le sécher, puis le battre pour faire une fibre. Puis c'était énormément de travail. Puis cette madame-là faisait ça. Elle était travaillante. Au verset 14, elle est créative. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Dans ce temps-là, il n'y avait pas des camions qui allaient en Floride chercher notre jus d'orange. Il fallait envoyer des bateaux, puis il y avait sur le bateau des capitaines qui non seulement dirigeaient leur bateau, mais qui allaient faire des achats très loin, des produits qu'on ne pouvait pas trouver de près, puis les ramener, puis les vendre. Puis voici, cette femme, elle va partout pour chercher les meilleurs bargains, pour le dire en bon québécois. Et verset 15, elle est infatigable. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle est matinale à prendre soin de sa maison. Moi, j'ai écrit, elle ne coûte pas cher pour la maintenir. Vicky me dit ce matin, ouais. Je n'ai pas trouvé une autre façon de le dire. Alors, les Anglais ont une expression, high maintenance. Certaines femmes, ça coûte cher à maintenir. Parce que comme il y a des maisons, ça coûte cher. Moi, ma maison est faite en briques, en aluminium, là, puis je ne la peinture jamais l'extérieur. C'est une des raisons que je l'ai achetée. Il y a des maisons qui sont faites en bois, là, puis il faut le peinturer tous les ans, puis gratter. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Mais il y a des femmes comme ça que ça coûte cher. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, les femmes, c'est fait pour être belles. C'est sûr qu'il faut que les femmes se déguisent un peu. Je ne veux pas exagérer. Économe. Notre temps passe rapidement. Dernier point, aidante. Bon, j'ai oublié celle-là parce que j'ai changé aidante d'une grande aide. Je ne savais pas comment dire, mais je l'ai dit comme ça, d'une grande aide. Le passage nous dit qu'elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Dieu a dit dans Genèse 2, lorsqu'il a créé la première femme, « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Comprenez bien, mes sœurs, vous n'êtes pas des tapis. Vous êtes, comme je dis souvent, plus probablement, dans la majorité des cas, les femmes sont plus intelligentes que le mari. Elles ont un certain discernement extraordinaire, nos femmes, que nous, les hommes, on n'a pas. Et les hommes ne sont pas inférieurs aux hommes. Les femmes sont égaux aux hommes, elles sont différentes un peu. Mais les femmes ont été créées pour être aide semblable à leur mari. Pas une aide inférieure à leur mari, mais semblable à leur mari. Puis je vais dire quelque chose, puis c'est là que je pense que je vais être lapidé, mais ce n'est pas grave, je vous le dis quand même. Comme épouse, l'appel le plus important dans ma vie est d'aider mon mari pour qu'il puisse accomplir ce que Dieu l'a appelé à faire. Mes chères sœurs, si vous avez d'autres choses dans votre vie qui est plus importante que ça, vous avez un problème. Et ce n'est pas avec moi que vous avez votre problème. Votre problème, c'est avec la parole de Dieu et avec Dieu lui-même. Attention. Conclusion. Remarquez l'équilibre dans ce passage. Madame est très concentrée sur son foyer et les besoins de sa famille. Mais quelle est donc d'affaires? Elle achète des champs. Elle vend des choses au marché, elle donne la nourriture, la tâche à ses servantes, elle plante une vigne. Équilibre dans sa vie, mais sa priorité, c'est sa maison. Et madame est concentrée sur son foyer, les besoins de sa famille, mais elle est de faire. Il y a une philosophie dans ce monde qui est remplie de mensonges. Puis je veux vous dire c'est quoi. C'est donc stupide pour une femme de gaspiller sa vie au foyer. On a des sœurs ici qui ont choisi de rester à la maison avec leurs enfants. Puis en disant cela, je ne veux pas critiquer les autres qui n'ont pas fait ce choix-là. Puis je sais qu'on vit dans une économie difficile à Trois-Rivières. Avant ça, on rentrait dans une usine de papier lorsqu'on avait 17 ans, puis on sortait à 60 ans avec une pension, puis on était là pour le reste de nos jours. Puis aujourd'hui, c'est plus ça. Hein? Puis il y a des familles qui ça va mal, puis madame est obligée de travailler, puis ça, je comprends très bien cela. Mais je suis préoccupé par les extrêmes. Puis ce n'est pas stupide pour une femme de gaspiller sa vie au foyer. Au contraire, c'est un excellent choix. Puis on dit, il faut que la femme travaille à l'extérieur de la maison pour aider avec les finances. Et je sais que certaines sœurs ici, vous parlez avec vos voisins, puis ils disent, qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je reste à la maison avec les enfants. Mais quoi? Jésus, vous n'avez pas d'éducation. Hein? Une vraie femme a sa propre carrière. Voilà la philosophie du monde. Hein? Puis nous vivons des circonstances différentes, mais j'aimerais vous dire que parmi d'autres choix, demeurer dans le foyer est aussi une excellente option comme choix de carrière. Puis j'aimerais vous dire que la meilleure garderie, c'est chez nous. J'entends dire, je ne voudrais pas priver mes enfants de l'éducation qu'ils vont recevoir dans une garderie. Écoutez bien, mesdames et messieurs, l'évidence est là, les recherches ont été faites. Les enfants qui vont dans une garderie, au lieu de rester à la maison, Je ne parle pas d'une demi-journée par semaine, là, c'est, ou de temps en temps. Mais les enfants qui passent leur vie dans une garderie 8 puis 10 heures par jour, c'est rendu que les garderies ouvrent à 7 heures puis ferment à 6 heures. Ces enfants-là ont plus de problèmes de violence dans leur vie, ont plus de problèmes d'ajustement, ont plus de problèmes de dépression. Ça fait assez longtemps qu'on fait cela pour que les études ont été faites, puis ils ne sont pas publiés dans le journal parce que ce n'est pas publiquement, politiquement correct de le dire. Alors faites les choix que vous voulez, là, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui peut élever leur enfant mieux que la femme qui a l'enfant. Personne qui est meilleur gardien. Meilleur gardien, garderie, c'est chez nous. Puis si vous êtes dans une situation difficile, je ne veux pas vous critiquer, mais voilà. Puis des fois, on peut changer notre style de vie et puis nos dépenses pour permettre à maman de demeurer à la maison. C'est une option. Réduire les dépenses. Vous savez que j'ai travaillé dans la fiscalité un peu, j'en ai fait des impôts dans ma vie. C'est toujours intéressant de voir le couple qui travaille, au moins que ce soit des, vraiment des bons jobs, que bien compte là. On paye plus cher d'impôts, le taux marginal monte. Ça nous prend deux bonnes voitures. Puis là, on est tellement fatigué qu'on mange beaucoup plus souvent au restaurant. Puis ça coûte cher de vêtements. Ben. Puis quand c'est tout fait là, je ne suis pas si sûr que dans tous les cas, c'est si payant que ça. Pas toujours certain de ça, moi. Puis décider d'avoir une vie plus simple, c'est une option. C'est une option. Vous savez que mon épouse a été typographe, a tapé 120 mots à minute, a été graphiste. Puis quand elle est arrivée chez nous, c'était à la maison. Alors, elle travaillait un petit peu. Puis il y a des options. On travaille à temps partiel. Il y a des travaux maintenant à la maison qui sont possibles aussi de plus en plus. C'est possible, cela. Mais moi, il y a deux expériences qui sont arrivées la même année que j'ai trouvé drôle. Dan, je pense qu'il avait 23 ans. Puis, il m'appelle au bureau. Puis, il dit, « Pas! » Que bien, là, il avait 23 ans. C'est... Il avait été à l'extérieur de la maison pendant 4 ans pour étudier. Il est arrivé à la maison, puis, « Ma n'est pas là! Où est-ce qu'elle est? » Puis c'est drôle, ma fille était mariée. Puis elle a appelé. Je viens d'arriver à la maison, puis ma n'est pas là. La panique. Puis, j'aimerais vous dire que, écoute bien, première expérience sexuelle des jeunes adolescents, première expérience de drogue, c'est très clair, c'est quelque part entre 3h puis 5h30, l'après-midi. C'est là que ça passe. C'est là que ça passe. Rester à la maison, madame, c'est un excellent choix. C'est peut-être pas le seul choix. Vous êtes peut-être dans des circonstances. Puis il y a des madames auxquelles le Seigneur n'a pas donné des enfants aussi. Puis ça, je le comprends aussi. Puis, après que les enfants sont partis de la maison, il n'y a pas de raison de ne pas avoir une deuxième carrière, peut-être. Mais, bon, en conclusion, on dit souvent, nous avons les leaders que nous méritons. Jean-Guy Paquette disait souvent cela, puis c'est vrai. Puis quand on regarde certaines de nos instances gouvernementales, on dit, nous avons les leaders que nous méritons. Ça dit peut-être plus sur nous-mêmes que sur nos gouvernements. Hein? Mais, monsieur, nous avons parfois les épouses que nous méritons. Puis, je suis un peu mêlé dans mes notes. Monsieur, choisissez donc la bonne femme pour les bonnes raisons. Puis, monsieur, aidez votre femme à devenir comme la femme vertueuse. La parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, « Marie, aimez vos femmes. » Puis, avec cela, ça dit ceci, « Christ a aimé l'Église, puis il s'est donné pour elle, afin de se donner une épouse et le sanctifier, n'est-ce pas? » Puis, Christ, comme époux de l'Église, qui est son épouse, va aider à l'Église de devenir la femme qu'elle doit être, n'est-ce pas? Et vous, Marie, un de vos travaux, un de vos jobs, c'est de vous arranger pour que votre femme devienne ce qu'elle devrait être. Puis ça ne veut pas dire qu'elle aussi, c'est son travail pour que tu deviennes l'homme que tu es aussi. Ça, je comprends. Mais Marie, une de vos préoccupations, c'est d'aider votre femme de développer. Puis arrangez-vous pour encourager votre femme. Et si vous oubliez tout ce que j'ai dit aujourd'hui, monsieur, là, votre job, c'est d'encourager votre femme. puis lui dire que là, les choses qui sont chez elle, qu'on a vues en surface ici ce matin dans Proverbe 31, quand vous percevez des choses chez votre femme comme cela, chez votre fille comme cela, même chez votre mère comme cela, dites-lui donc, Valérie est là, vous êtes la seule personne qui va le faire. Nous prions. Oh Seigneur, ta parole nous touche de près, ce n'est pas juste la théorie. Puis c'est Satan, notre grand ennemi, qui est le prince de la puissance de l'air, c'est celui qui règne dans ce monde. Les influences qui sont au Hollywood, puis autour de nous, même dans nos écoles, dans notre société, ne sont pas des influences selon ton cœur. Et ces influences, Seigneur, rentrent dans nos cœurs et dans nos églises et dans nos philosophies comme chrétiennes parfois. Puis pour chacun de nous, femmes et hommes, jeunes filles, femmes âgées, jeunes hommes, hommes plus âgés, nous demandons que tu nous donnes un cœur avec tes priorités. Puis aide-nous à être obéissantes, même quand il y a un coup, même si, quand ça va contre-courant. Le Seigneur, nous demandons ça au beau nom de Jésus. Amen.